Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous te bénissons, nous te célébrons. Parce que tu nous aimes. Tu nous as sauvés en Jésus-Christ. Et toujours à nouveau, tu nous rappelles ta volonté. Pour que nous ne puissions pas vivre comme des gens qui ne te connaissent pas. Avec le danger de t'oublier. Ou bien d'oublier ta parole et de vivre comme ceux qui ne te connaissent pas. Seigneur, que ton Esprit Saint nous accompagne, que ton Esprit Saint nous éclaire, afin que tout ce que tu auras à nous dire ce matin pénètre profondément en nous, nous transforme à nouveau pour faire de nous tes enfants bien-aimés. Seigneur, parle, car nous t'écoutons au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Notre premier texte se trouve dans Ésaïe 2, versets 1 à 5. Ésaïe chapitre 2, versets 1 à 5. Là, il est écrit. Prophétie d'Ésaïe, fils d'Amoth, sur Juda et Jérusalem. Il arrivera dans la suite des temps que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur le sommet des montagnes, qu'elle s'élèvera par-dessus les collines et que toutes les nations y afflueront. Des peuples s'y rendront en foule et diront « Venez et montez à la montagne de l'Éternel, à la maison du Dieu de Jacob, afin qu'il nous enseigne ses voies et que nous marchions dans ses sentiers. Car de Sion sortira la loi, et de Jérusalem la parole de l'Éternel. Il sera le juge des nations, l'arbitre d'un grand nombre de peuples. De leurs glaives, ils forgeront des hoyaux, et de leurs lances, des serpes. Une nation ne tirera plus l'épée contre une autre. Et l'on n'apprendra plus la guerre. Maison de Jacob, venez et marchons à la lumière de l'Éternel. Amen. Nous continuons dans le Nouveau Testament et nous lisons cette fois-ci dans Romains chapitre 13, versets 11 à 14. Romains 13, 11 à 14. Là, il est écrit. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de nous réveiller enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Marchons honnêtement comme en plein jour, loin des excès et de l'ivrognerie, de la luxure et de l'impudicité, des querelles et des jalousies. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ. Et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Nous terminons notre lecture biblique avec l'évangile selon Saint Matthieu, chapitre 24, versets 36 à 44. Matthieu 24, 36. À 44. Là, nous lisons. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, Les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ils ne se doutèrent de rien jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Alors, de deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. De deux femmes qui moudront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Sachez-le bien. Si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. C'est pourquoi, vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y pensez pas. Amen. Je me sens très heureux de me trouver derrière cette chaire ce matin. Vous allez vous poser la question de savoir pourquoi. Pourquoi? Je me sens heureux parce qu'il s'agit pour moi de délivrer la parole de Dieu, de vous adresser ce que Dieu veut que vous sachiez. Mais pourquoi je suis heureux donc? Parce que nous entrons ce dimanche dans une autre période. Une autre période de la vie chrétienne que je vais vous expliquer tout à l'heure. Nous entrons aujourd'hui dans le temps de l'Avent. L'Avent du latin Adventus, c'est-à-dire arriver. Ce temps couvre les quatre dimanches qui précèdent Noël, la fête anniversaire de la naissance de Jésus-Christ, notre Sauveur et notre Seigneur. Cette période est mise à part par l'Église universelle depuis des siècles pour permettre aux chrétiens du monde entier de se préparer spirituellement pour accomplir à nouveau dans leur cœur, pour accueillir à nouveau dans leur cœur, le Fils de Dieu. Pendant cette période, il s'agira donc pour les chrétiens véritables, pour les chrétiens authentiques, de se repentir, de renouveler leur engagement au service du Dieu vivant, de se réconcilier avec leurs éventuels ennemis, de partager avec les autres frères et sœurs, ainsi que les misérables, leurs biens spirituels et matériel, tout en se rappelant que la religion pure et sans tache devant Dieu, notre Père, consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions et à se préserver des souillures du monde. C'est donc une période, à mon avis, très très importante pour chacun de nous. Parce que Jésus ne reviendra plus jamais sur la terre sous les traits d'un bébé frêle dans une étable de Bethléem, mais plutôt en roi des rois et juge universel pour rendre à chacun selon ses œuvres. Cette période de l'Avent se vit donc aussi et surtout dans la perspective de cette deuxième venue de Jésus-Christ. Chacun devrait donc être prêt, pas seulement dans la perspective ou en vue du temps de l'Avent, mais aussi et surtout du jour de la fin du monde. Puisque lorsque Jésus va revenir, il va mettre fin à notre monde, à notre cher monde, que nous aimons beaucoup. Il est vraiment triste, malheureusement, il est triste que lorsqu'on parle de Noël, beaucoup de gens ne voient que l'anniversaire de la naissance de Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Et comme vous le savez, les cadeaux pleuvent, n'est-ce pas? Et les commerçants font recette, parce que les familles et les individus font bombance. Pendant ce temps, les pauvres et les malheureux sont tristes parce qu'ils n'ont pas d'argent pour fêter aussi, à moins qu'on leur donne. Et ceux qui donnent ne sont pas forcément nombreux. Et quand cela arrive en fin d'année, beaucoup de gens ne pensent pas au côté spirituel. Même quand on pense à Noël, ce n'est pas le côté spirituel qui importe, c'est les fêtes, hein? C'est les récits de Noël, les danses, les chansons, les nouvelles chansons, pas le spirituel. Ça dit que ça ne joue pas tellement sur notre vie spirituelle. On fête aussi parce qu'on a atteint la fin d'année et qu'on espère voir une nouvelle année. Là, on peut danser, chanter et danser. Mais se comporter de cette façon, c'est tout simplement mener sa vie chrétienne sans tenir compte du jugement dernier. Il y a un jugement dernier. Qu'on le veuille ou non, nous serons jugés. Même si Christ nous a sauvés, il ne nous a pas sauvés pour vivre dans le péché. N'est-ce pas? Le jugement dernier va arriver immanquablement à la deuxième venue du Seigneur Jésus-Christ, qui reviendra pour mettre fin au monde, envoyer les fidèles, ceux qui ont été fidèles à lui au paradis, et les chrétiens de nom, les chrétiens par procuration, n'est-ce pas, qu'on a envoyé, va aussi à Tamia, ou les chrétiens par imitation, ceux-là perdent leur temps. Ils sont préparés pour l'enfer avec les impies, les païens. Le Seigneur Jésus n'a pas prévu la date de sa deuxième venue, mais il reviendra certainement. Il est d'ailleurs préférable, à mon avis, que nous ne sachions pas cette date du retour de notre Sauveur. Imaginez que nous le sachions. Ne serions-nous pas tentés de nous relâcher, de mener une vie chrétienne faible, sans force, parce que nous n'accomplissons pas suffisamment les œuvres de foi. Certains pourraient même carrément continuer à pécher avec beaucoup d'ampleur pour se repentir juste à quelques heures ou même à quelques minutes de la fin. Imaginez. Le Seigneur Jésus a donc bien fait de cacher le jour de sa venue et de prévoir qu'il arrivera souverainement au moment où personne ne l'attend spécialement. Pour cela, frères et sœurs, il est salutaire que chacun de nous reste sur le qui-vive. Aujourd'hui, il y a beaucoup de vols. Et il y a certains quartiers même où on ne dort pas à deux yeux, comme on dit. Parce que les voleurs sont toujours à la porte. Ceux-là sont toujours prêts pour se réveiller et crier. Alors, Jésus voudrait aussi que nous vivions comme ça. Pas par peur, mais parce que nous l'attendons. Que nous puissions attendre le Seigneur. Ainsi, si nous attendons le Seigneur, nous pourrions être à mesure d'aimer, de nous lever à toute heure pour travailler, pour lutter afin de repousser les ténèbres qui envahissent notre monde et ouvrent les portes à toutes sortes de péchés. L'apôtre Paul relevait déjà en son temps la tendance de ses contemporains à rechercher sans retenue les plaisirs sexuels. Il disait que les gens s'adonnent aux excès de table, aux choses qui blessent la pudeur, aux querelles et à la jalousie. Mais lorsque nous regardons autour de nous, et même dans l'église, est-ce que c'est le contraire? Nous constatons que les gens commettent toujours ces péchés-là, et même avec ampleur. D'ailleurs, Jésus a prévu que, avant qu'il ne revienne, le monde va être complètement gâté. Il y a trop de mauvaises choses qui vont se produire. Il est donc urgent pour nous de nous réveiller. Réveillons-nous du sommeil spirituel et portons Christ, comme l'apôtre Paul nous demande. Portons Christ. Porter Christ ne signifie pas porter son effigie ou une grosse croix en bois, en bronze, en diamant ou en or. Mais c'est lui obéir. Marcher dans sa lumière au milieu de la nuit du monde afin de montrer à ceux qui nous entourent comment ils doivent faire pour être sauvés de la perdition éternelle. Briller, c'est briller n'est pas faire des choses extraordinaires, bien entendu. Chrétiens, nous sommes. Mais chrétiens, nous travaillons dans les mêmes lieux, dans les mêmes lieux de service que les non-chrétiens. Nous vendons. Je vois beaucoup de chrétiens au marché. Nous vendons dans les mêmes marchés. Et peut-être même les mêmes marchandises que les non-chrétiens. Professeurs, étudiants, élèves. Nous fréquentons les mêmes écoles, collèges et universités que les non-chrétiens. Ouvriers agricoles, mécaniciens, menuisiers, maçons, nous exerçons dans les mêmes domaines avec les païens. Mais une réalité nous distingue de ceux-ci. L'Esprit de Dieu. Nous avons l'Esprit de Dieu. C'est-à-dire cet Esprit de Dieu qui nous anime et produit en nous l'amour de Dieu et du prochain. Dans ces conditions-là, notre manière de vivre et de servir suscite de la curiosité et devient en quelque sorte un tremplin pour l'évangélisation. Lorsque nous agissons différemment par rapport aux gens du monde, on s'interroge. Comment est-ce que ces gens-là vivent comme ça, différemment par rapport à nous? Et ils peuvent nous interroger. Alors, nous profiterons de l'occasion pour parler de Christ. Malheureusement, ce n'est pas toujours le cas. De nombreux chrétiens déshonorent Dieu par leur façon de vivre, caractérisée par le manque d'amour, la corruption, le manque d'application et la recherche de gain à tout prix. La recherche du gain à tout prix, même en trompant nos usagers. C'est pourquoi la péricope de Matthieu 24, verset 36 à 44, doit nous amener à nous réveiller, à nous ressaisir quand Jésus revient. Qu'on le veuille ou non, Jésus revient. Et alors ce sera le jugement et la condamnation des faux chrétiens. Ou les sortes de chrétiens que j'ai dit plus haut. C'est-à-dire les chrétiens par procuration. Hein? Papa a dit qu'il faut que j'aille aussi. Ah, on l'a pas. Ou les chrétiens de nom. Elle est païenne. Chers amis en Christ, réveillons-nous. Réveillons-nous donc. Et apprêtons-nous pour accueillir Jésus-Christ, notre Sauveur et notre Maître, même s'il se met à la porte là-bas, maintenant. Par notre façon de vivre, conforme à la volonté souveraine de Dieu, que ce soit en famille, au lieu de service, et partout, prouvons aux yeux de notre monde rebelle qu'on peut obéir au Dieu vivant parce qu'il est notre Créateur et notre Père et non forcément parce qu'il est notre Juge. Autrefois, une prophétie d'Ésaïe présentait Jérusalem comme un pôle d'attraction appelée à attirer les habitants du monde entier à elle pour recevoir la connaissance de Dieu. Comme vous le savez, cela s'est réalisé impeccablement en Jésus-Christ. L'Église, corps de Christ, est le lieu de rassemblement des personnes de toutes races, de toute couleur et de toute langue. Cette vocation exige de sa part qu'elle se sanctifie. L'Église doit d'abord se sanctifier et attirer par sa lumière tous ceux qui ne croient pas. tous ceux qui ne croient pas encore, afin de leur enseigner la vérité et les préparer pour le retour du Sauveur du monde. L'Église évangélique essaye, comme elle peut, d'évangéliser, même par des mouvements. Comme vous le savez, depuis quelques jours, l'UFC, qui a été choisi pour l'Église comme mouvement d'évangélisation, est en congrès. En effet, dès sa création, avec l'ensemble des diverses associations des femmes chrétiennes qui existaient en son sein depuis 1930, l'Église évangélique du Cameroun a engagé l'UFC EEC à devenir un instrument d'évangélisation. Un instrument d'évangélisation, mais aussi d'éducation et du progrès, surtout pour les femmes. Lorsqu'on regarde ce mouvement, on peut dire que ce mouvement a essayé de jouer avec détermination son rôle, si bien que les femmes peuvent faire partie du corps pastoral aujourd'hui, sans aucune gêne. S'il y avait quelque chose à dire encore à l'UFC, c'est de continuer à la suite de Christ, son maître, à monter la bonne voie aux Camerounais. Bien-aimé à Jésus-Christ, à côté des hommes de notre Église, vous aussi les femmes, vous devez être le sel qui assaisonne les relations humaines et la lumière du Christ qui éclaire nos semblables pour les sortir des ténèbres du péché. Comme vous le savez, notre pays est en train de passer par des situations qui font de lui une véritable jungle. Je citerai, entre autres, la consommation des stupéfiants, la violence qui a déjà atteint les enfants, si bien que les professeurs ne sont plus en sécurité dans les collèges. Si un enfant trouve moyen, il peut aussi tuer. Il y a également les guerres. Pour ne citer que cela. Voilà la situation de notre pays. Dans certaines régions même, les femmes sont presque reléguées au rang de sous-hommes ou d'hommes mineurs. Et les petites filles peuvent être mariées à l'âge de 12 ans. À 12 ans, vous voyez une fille qui a un enfant. Ainsi, comme vous pouvez imaginer, elles n'auront pas le temps de s'instruire, ni de recevoir une éducation pouvant leur permettre de mieux s'occuper de leurs enfants. L'UFC, qui est un mouvement d'évangélisation, doit donc continuer à chercher les voies et les moyens d'ouvrir davantage les yeux des femmes par l'évangile libérateur et l'éducation, afin qu'elles sachent qu'elles ont la même dignité que les hommes, puisqu'elles ont été créées à l'image et à la ressemblance de Dieu, tout comme les hommes. Je m'adresse aussi aux femmes qui sont ici. Les femmes ont la même dignité que les hommes. Ce n'est pas seulement les hommes qui sont créés à l'image et à la ressemblance de Dieu, même les femmes. Je ne sais pas si les femmes, vous savez. En tout cas, si vous ne saviez pas, je vous l'ai dit ce matin. Les femmes sont créées aussi à l'image et à la ressemblance de Dieu, tout comme les hommes. Dieu se doit donc toujours rechercher à la lumière de l'évangile, non seulement tout ce qui peut aider la femme à être à mesure de s'exprimer et de travailler de manière à gagner sa place de femme, non seulement à la cuisine et au champ, mais aussi au bureau. Tout cela en étant sauvé pour ne pas être rejeté à la fin du monde par Jésus-Christ. Une autre réalité qui caractérise les temps de la fin que nous vivons, c'est que la famille est de plus en plus menacée dans un monde qui rejette Dieu et s'enfonce toujours plus dans les ténèbres du péché. Dans cette situation, l'institution famille ressemble à un navire qui menace de chavirer parce qu'il a perdu ses amarres. L'une des tâches de l'UFC, de notre église, sera absolument de faire redécouvrir à nos contemporains et à notre église la vocation véritable de la famille. Et par conséquent, sa valeur, son importance. Je parle à l'UFC, mais je parle aussi aux femmes qui sont ici. Vous avez pour rôle de faire comprendre à votre entourage la vocation de la femme et sa valeur. La famille étant l'unique cadre dans lequel les enfants doivent venir au monde pour connaître un bon encadrement et un véritable épanouissement, il faut que la famille soit prise très très au sérieux. Pour cette raison, il faudra que les femmes décrivent les contre-valeurs. Parle contre les contre-valeurs. L'homosexualité, le lesbianisme, les unions libres et les mariages à laisser que certains pasteurs bénissent déjà. Les impudicités, la prostitution, la polygamie, la famille monoparentale, comme on le dit, comme on le vit déjà en Occident. Vous savez ce qu'on appelle famille monoparentale, n'est-ce pas? C'est-à-dire qu'une personne vit seule, mais elle veut avoir quand même des enfants. Elle est seule, mais elle veut quand même avoir des enfants. Elle peut être une femme ou un homme. Et comment elle va faire pour avoir un enfant? Elle est un homme, je vous dis. Et comment faire pour avoir un enfant? Il faut chercher une femme et prêter son louer, son utérus. Comme ça, elle va garder cet enfant, elle va faire grandir cet enfant. Et quand elle va naître, l'enfant va venir au monde. Elle ne sera pas l'enfant de celle qui a gardé dans son utérus, mais sera le garçon de celui qui lui a donné. Frères et sœurs en Christ, les femmes qui connaissent la vie de foi
mais aussi qui ont le sens de l'humain. Et qui connaissent également la simplicité, l'humilité, l'engagement chrétien. Ces femmes-là doivent aider l'église évangélique du Cameroun, notre chère église, à sortir de l'imbroglio dans lequel ils se trouvent, de cette situation confuse qui se trouve au sommet de l'église. On ne sait pas quoi faire. L'église évangélique est malade. On ne sait pas comment faire pour la. Moi, je crois que les femmes ont leur rôle. Pourquoi les femmes ont leur rôle? Parce qu'elles sont les plus nombreuses dans l'église. Et si là où elles se trouvent, elles essaient de vivre leur foi, leur vie chrétienne, sans tenir compte de ce qui se passe au sommet là, je crois que les choses pourront changer. Parce que si nous continuons à attendre, nous allons attendre un miracle et nous ne savons pas quand. Frères et sœurs en Christ, nous sommes dans le temps de l'avant, le temps où nous attendons la naissance de Jésus qui est à nouveau dans nos cœurs, mais aussi le temps où nous attendons la fin du monde. C'est surtout sur cela qu'il faut mettre l'accent. Vivre une vie chrétienne authentique. Garder sa foi. Regarder ce qu'on a de mauvais en soi sans séparer. Et vivre en attendant Jésus-Christ, si bien que s'il revient à n'importe quel moment, qu'il nous prenne avec lui pour le ciel. Voilà donc la lourde responsabilité que le Seigneur m'a donnée de vous livrer, de vous d'accomplir ce matin. Nous inviter à changer, nous réveiller. Attendre que Christ revienne à tout moment. Ne pas attendre qu'il soit d'abord à la porte avant de nous repentir. Parce que ce ne sera pas possible. S'il est déjà là, c'est la fin. On n'a plus rien à faire. Que chacun de nous regarde dans sa vie chrétienne. Il profite de ce moment de l'avant. Ce sera 4 dimanches pour regarder sa vie. Voir comment elle mène sa vie chrétienne. Si ça va avec la parole de Dieu, alors qu'il soit tranquille. Mais si ça ne va pas avec la parole de Dieu, qu'il change, qu'il se repente, qu'il renouvelle son engagement. Heureux ceux qui l'ont suivi et qui l'ont gardé. Amen.